Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Aujourd'hui a été une journée particulière et exceptionnelle à l'Église protestante unie de la Fraternité à Nîmes, rue Antoine Delon, où nous avons accueilli Jacqueline Assael. Bonjour Jacqueline.
Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde.
Ouais, Jacqueline, vous nous avez offert une journée en poésie avec le partenariat de Iris Reuter, la pasteur de cette paroisse. Et donc, toute la journée, nous avons voyagé en poésie. Et ce que je peux dire déjà de vous, c'est que vous êtes née à Marseille et que vous avez été professeure de langue et littérature grecque et latine. Et que à l'université Nice Sophia Antipolis, et puis ensuite vous avez écrit des essais et des textes poétiques. Voilà. Alors, à partir de 1999, une dizaine de recueils et beaucoup de collaborations dans des revues avec vos propres poèmes et les poèmes de beaucoup d'amis poètes. Pasteur ou non, voilà. Alors, peut-être nous pouvons commencer justement par parler de votre parcours un petit peu et de cet intérêt pour la poésie. Comment c'est venu et est-ce que c'est depuis très très longtemps et de tout temps ou est-ce que ça a cheminé à travers votre métier? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots?
Oui, bon alors j'ai toujours voulu être poète depuis mon enfance. Et le premier poème de moi dont je me souviens, j'avais l'âge de 4 ans quand je l'ai écrit. Donc vous voyez, c'est vraiment une vocation très lointaine, qui avait, je pense, vaguement été encouragée par ma maman, qui me rêvait poète, et puis par mes institutrices aussi. Voilà. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas beaucoup écrit, il venait un poème de temps en temps, et ce n'est qu'à partir des années 1999, oui, 2000, au tournant des années 2000, comme vous l'avez signalé, que ma production s'est quand même étoffée.
Vous êtes maintenant à la retraite, et vous avez peut-être plus de temps aussi pour écrire, ou bien vous avez déjà commencé pendant que vous travaillez, ou c'est à partir de votre retraite plutôt que vous avez eu...
Non, je travaillais encore quand j'ai commencé à écrire. Mmh. Mais la poésie, ce n'est pas quelque chose de prémédité. Hein, donc, on parle souvent de l'inspiration à propos des poètes, et c'est bien ça que nous vivons. C'est-à-dire que la poésie vient quand elle veut, hein, en général. Donc, elle est venue plus abondamment à partir des années 2000. Faut-il de l'expérience pour écrire ce qui a été important dans nos vies. Moi, ça s'est présenté comme ça. À partir des années 2000, il y a eu des poésies qui sont venues spontanément. Et quand j'ai vu que je savais en quelque sorte écrire un recueil, systématiquement, je me suis attachée à mettre en poésie, si je peux dire, tout ce qui m'avait vraiment profondément marqué dans ma vie. Voilà, c'est ce qui a donné cette production dont vous parliez tout à l'heure, d'une douzaine de recueils.
Et l'écriture, pour vous, donc ça serait quoi? Comment vous pourriez la... Est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'on peut définir ce que vous vivez en écriture, je dirais?
Bon, alors, il faut distinguer les types d'écriture. Hein. Vous avez eu raison de dire que j'écrivais des essais aussi. Bon, des essais, de la poésie. J'étais universitaire, donc j'ai écrit des études universitaires. Alors, comment ça vient? Bon, c'est très différent selon les genres. Comme je vous disais, la poésie, ça ne se prémédite pas. Ça vient tout seul. Et en général, quand ça vient, la poésie, on est très heureux. Parce qu'on a vraiment le sentiment de se délivrer, en quelque sorte, de quelque chose qui nous occupe très intérieurement, vous en délivrer pour pouvoir le partager. Mais ça vient très épisodiquement, très accidentellement, on ne s'y attend pas. Et quand ça ne vient pas, on se sent tout sec. Et moi, j'avais comme ressource, quand la poésie ne venait pas, quand elle ne vient pas, je peux écrire dans d'autres secteurs. Donc, je peux écrire des études de type universitaire. C'est ce que je fais, par exemple, là, dans le domaine de la foi. Il m'arrive d'écrire des études un peu systématiques, par exemple, sur la notion d'amitié. J'ai fait ça dans les dernières années. Actuellement, j'écris aussi pour essayer de réfléchir sur ce que c'est que la notion d'esprit, qu'est-ce que ça représente. Alors ça, ce sont des études qu'on peut faire de façon beaucoup plus calculée, je dirais, beaucoup plus méthodique. On prend des textes, on les étudie. Voilà. C'est la grande différence. La poésie vient de manière impromptue et les autres types d'écriture, on peut les pratiquer en s'y attelant de manière plus construite.
Alors ça dépend des personnes. Figurez-vous que quand j'avais parlé avec Jean-Alexandre, qui est pasteur et poète, lui il m'avait dit que tous les jours il s'arrêtait pour écrire, mmh. et que pour lui il fallait écrire au moins un poème par jour. Donc en fait je crois qu'il avait une certaine discipline entre guillemets, et après il y avait peut-être quelque chose qui venait plus facilement à un moment donné ou à un autre, comme vous dites. Mais il avait aussi cette discipline-là. Donc peut-être selon les personnes ou les caractères, ou je sais pas, il y a des choses peut-être qui se travaillent différemment. Enfin, pour lui, c'était une technique à lui. Vous en avez une autre peut-être, de laisser les choses venir. Donc justement, ça rejoint ma question, la question suivante que je voulais vous demander. Comment est-ce que vous écrivez ? Donc vous vous arrêtez tout d'un coup dans votre travail, dans la journée. Il y a une envie pressante, je dirais. Est-ce qu'on peut dire
c'est
ça?
C'est exactement ça, oui. Quand c'est de l'écriture que j'appelle inspirée. Comme je vous ai dit, à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire des recueils. Donc, j'ai décidé que je mettais en poésie tous les événements importants de ma vie. Bon, mais ça, c'est un aspect assez particulier. Mais quand on parle de la poésie inspirée, c'est vrai que ça peut vous arrêter à un moment de votre journée. Et moi, ça m'est arrivé d'aller travailler à Nice. J'étais dans le train, puis après dans le bus pour aller travailler à l'université de Nice. Un poème est arrivé dans le train, je commençais à l'écrire. Puis je suis descendue du train, j'ai pris le bus et la suite a continué dans le bus. Et j'étais obligée de prendre un carnet et un stylo. Et les personnes autour de moi devaient être assez étonnées de voir quelqu'un qui se mettait à écrire dans le bus. Et pourtant, voilà, il est venu comme ça. Et si on ne retient pas les mots comme ça en les écrivant quand ils viennent, après, moi en tout cas, je les oublie et ils sont perdus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une envie pressante, quelquefois.
Et donc vous avez un carnet toujours avec vous, quand même, pour écrire.
J'ai toujours un stylo, un petit papier avec moi. Mais bon, c'est rare, hein, ce type de, quand même, d'irruption de la poésie. Ça s'est produit, en gros, trois fois dans ma vie.
Mm-hmm. Il y a des personnes qui m'avaient dit, comme ça, des écrivains qui m'avaient dit, j'ai toujours un carnet. En fait, j'ai commencé à mettre des choses sur mon carnet. Alors, je ne sais pas s'il écrivait particulièrement que de la poésie, il écrivait aussi d'autres choses, mais il avait besoin de son carnet tout le temps avec lui. C'était un peu son outil de travail, comme d'autres en ont d'autres. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement ? Comment vous sentez quand vous écrivez ? Qu'est-ce que ça donne dans votre vie ?
Eh bien, j'ai fini par déceler que quand j'écrivais un poème, c'était un poème comme ça, inspiré, hein, que je n'avais pas prévu. C'était en quelque sorte le poème qui me disait où j'en étais dans ma vie et qui me disait plus précisément que j'avais dépassé une crise, voilà, que j'avais franchi un cap et que une crise qui pouvait peut-être être partiellement inconsciente était dénouée. Ça, on s'en aperçoit avec le recul, mais en fait, en analysant le phénomène, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée.
Oui. Donc ça vous fait du bien en général ? Est-ce que ça bouge aussi des choses ?
C'est pas une thérapie, c'est comme une annonce en fait, donc c'est très réjouissant.
D'accord. Donc voilà, il faut essayer, vous voyez. Et puis il y a des différentes façons d'écrire. Vous écrivez. Donc vous avez fait plusieurs recueils avec des styles peut-être un petit peu différents ou vous changez quelquefois certaines façons d'écrire. Il y a une structure qui s'impose à vous ou il y a une envie d'écrire un peu décalé quelquefois ou autre chose. Comment ça vient sur la forme alors en tant que telle ?
Bon, sur la forme, moi j'écris de la poésie libre. Hein. Les personnes actuellement croient toujours que la poésie est faite de strophes et de rimes. Bon, il y a des auteurs encore qui fonctionnent de cette manière-là. Mais enfin, depuis 1925, en gros, avec le surréalisme en particulier, ce type de structure tombait plus ou moins en désuétude. Hein. Donc maintenant, souvent, les poètes écrivent de la poésie libre. Et bon, c'est mon cas. Donc c'est pas une forme véritablement qui s'impose à moi. On va plutôt dire que ce sont des mots qui surgissent avec des réseaux donc de mots et de significations, et peut-être aussi des rythmes quand même, parce que la poésie, ce sont des mots, des silences, c'est une musique.
Oui, donc, c'est ça.
Je pense que quand on écrit les mots, si on les écrit, c'est parce qu'on sent qu'ils sont dans le rythme voulu. S'il vient des mots à la conscience et qui ne conviennent pas, bon, ben, ils ne seront pas enregistrés dans le poème. Donc l'important, je crois que c'est les mots adéquats et une musique.
Vous reprenez quand vous avez écrit quelque chose comme ça, un peu sous l'inspiration, comme vous dites, vous le reprenez après, vous le relisez, vous recommencez?
Pas du
ou
tout.
C'est écrit, c'est écrit.
Oui, non, c'est écrit, c'est écrit. Ce type de poésie, on ne peut rien y toucher. Je vous dis, c'est comme une annonce qu'on a et on ne maîtrise pas, en fait. Sauf qu'on contrôle que ça nous convient après coup, mais il n'y a rien de prémédité. Les mots viennent, on les écrit parce qu'on sent qu'ils correspondent. Et on ne corrige pas.
D'accord.
Enfin, c'est ma pratique.
C'est un côté assez pratique quand même, d'une certaine façon.
On n'y passe pas des journées, oui, c'est vrai, ils viennent tout seuls.
Voilà. Vous vous relisez quand même après
Pour ne pas faire de faute d'orthographe.
C'est d'accord. Ok. Peut-être nous pourrions justement en écouter un ou deux de vos poèmes, si vous voulez bien. Et puis, si vous pourrez nous en dire un ou deux mots, peut-être, ou quand est-ce qu'ils ont été écrits, ou comment ça vous a inspiré?
Bon, là, je n'ai sélectionné qu'un poème qui est en relation avec l'expression de la foi. Vous me demandiez tout à l'heure si j'avais des inspirations, enfin des... Bon, il y a eu, disons, deux périodes dans ma production. La première période où j'étais vraiment inspirée par la culture que j'avais. On est toujours imbibé hein, par la culture qu'on a. Donc, moi, j'avais une culture méditerranéenne inspirée par la culture latine et grecque. Hein, comme vous disiez, j'étais professeure tout à l'heure de ces langues-là. Donc, j'avais cette culture et ça a imprégné aussi mon écriture. Et puis ensuite, l'orientation a changé avec le surgissement de la foi, et donc là je me suis constituée aussi une culture chrétienne, et du coup ma poésie a été marquée également par à partir de ce moment-là par la pensée chrétienne. Donc ce que je vais vous lire maintenant, c'est un poème issu d'un extrait d'un recueil qui s'intitule Frères de silence. C'est quasiment la conclusion de ce recueil, et c'est une conclusion pleine de joie devant la vie, malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Donc, je vous le lis. Il y a un corridor parallèle à la lumière, il y conduit aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la lumière. Ce qui le dit est un murmure inaudible qui filtre au mur poreux de l'être. Il vibre aussi dans ton silence, comme un brisant qui n'éteint pas les certitudes, qui n'est que ta brisure d'être et que la foi répare.
Merci beaucoup, merci bien. Donc ça fait le lien justement avec ma question au sujet de la foi, parce que là, aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 6 novembre, le jour où nous enregistrons ensemble, Jacqueline Assael et moi-même, et nous avons donc vu cette journée, la poésie de la foi.
Octobre,
pardon, je me mélange dans les mois, on est déjà au début octobre, 6 octobre, excusez-moi, chers auditeurs et auditrices. Donc nous sommes là, nous avons été là toute cette journée, à faire le lien entre la poésie et la foi. Et donc, peut-être ce qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce que pour vous, c'est aussi une question de transmission de votre foi, ou d'une façon de parler de votre foi quand vous écrivez
Oui, c'est certainement une façon d'en parler. Maintenant, quand on écrit, c'est pas par devoir. Donc, effectivement, une fois que le texte est réalisé, on se dit qu'il pourra être lu et on espère que ça pourra conforter certaines personnes. Mais je pense que quand on écrit, c'est avant tout pour libérer ce qu'on a en soi. Donc, c'est très égoïste au départ.
Mais donc, le lien avec votre foi, c'est aussi une façon de dire votre foi à vous. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut dire sa foi par les mots ?
Mais certainement, oui.
Oui.
Donc le poème que je vous ai lu tout à l'heure, il a été publié aux éditions Jas Sauvage dans une collection qui s'appelle la collection Priem. Et la phrase qui caractérise cette collection, c'est qu'elle contient des poèmes où il est dit « Le poème et la prière en miroir s'adressent à Dieu, au lecteur, à l'auteur lui-même. » Voilà, ça correspond un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire que les poèmes me permettent de me dire ma foi à moi-même. Ce sont des poèmes qui sont composés sous une forme littéraire, donc ce ne sont pas exactement des prières, mais c'est quand même apparenté comme genre, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi à Dieu. Et puis, effectivement, ça s'adresse à tous les frères en humanité, et les croyants aussi, mais les frères en humanité qui sont prêts à partager la lecture d'un poème et une réflexion, une méditation sur ce qu'il dit.
Je vois que vous avez un autre recueil devant vous et que vous l'avez ouvert. Il s'agit duquel ?
Alors, c'est un recueil d'un pasteur de la Gardonac qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle Gérard Skripiec, qui a écrit un très joli recueil, très fort. Quand on dit joli en poésie, en fait, c'est jamais quelque chose de mièvre, c'est quelque chose qui peut être beau, mais qui est très très fort. Et son recueil s'intitule « Il existe une faim ».
F-A-I-M.
F-A-I-M. C'est ça, être affamé, assoiffé de la justice, hein, comme il est dit dans les Béatitudes, par exemple. Et donc, il y a un poème de lui qui m'emporte toujours quand je le lis. Oui, j'aurais plaisir à vous le faire connaître.
Merci.
Il existe une faim qui creuse notre ventre jusqu'à nous faire trembler, jusqu'à nous faire crier. Nos yeux alors n'ont plus de paupières, effrayés par la faim qui appelle la nuit. Il révèle alors notre charpente vide. Il existe une faim inouïe. Il existe une faim que rien ne rassasie, ni ce pain de parole sur nos tables rassis, ni ces ciels de plastique où s'amusent les dieux, ni le glacé des jours aux lumières trop pâles, et nos regards avides de nuit noire, parce qu'alors peut-être le peu d'une étoile pourrait nous rassasier, et nos torses avalant des tempêtes, parce qu'alors peut-être aurions-nous peur jusqu'à mourir pour l'équipage affamé d'un fanal. Et de nos pieds infirmes chancelants au ravin, dans un ultime élan de nos talons défaits, arrivés doigts tendus à dévorer des lunes, il existe une faim, dépliant une nappe où manger des aurores lorsqu'elles sont violettes et mauves, par-dessus le drap rêche du monde. Il existe une faim, un désir tellement fort d'aller dans cette nuit à l'envers de la nuit pour y puiser l'eau neuve d'un soleil. Il existe une faim qui pose sur ton front un baiser, où mes lèvres apaisées seront comme un nuage dans le temps augmenté.
Très beau poème, très 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 percutant. Qu'est-ce qui vous dit ce poème à vous ?
Eh bien, la faim, c'est la volonté de vivre. Hein, justement, quand on ne ressent pas cette faim en nous, c'est comme si on était mort quasiment. Donc là, c'est une façon d'être un être humain jusque dans ses moindres cellules et de l'être le plus fortement possible. Alors cette faim, elle va être rassasiée, c'est ce que dit c'est ce que disent les derniers vers du poème. Elles seront rassasiées par la douceur. Donc c'est le texte d'un pasteur. Il faut bien comprendre que c'est une annonce évangélique qu'il nous fait. Il nous annonce sur notre front un baiser dans le temps augmenté. Donc il nous dit à sa manière, je pense, la douceur et la présence de Dieu. Et vous avez vu qu'il nous le dit en évoquant l'infini, toutes ces grandes dimensions de l'univers qui agrandissent les perspectives de notre imagination. Donc c'est toute la beauté de son langage poétique aussi qui me charme.
Quand vous l'avez lu, vous avez été tellement transportée dans son écriture. Il y a des mots comme le mot « fin » évidemment qui nous percute parce que ça nous donne envie en fait et ça nous reprend en même temps un petit peu aussi pour avancer dans la foi peut-être aussi
oui.
Quand vous lisez ce poème, c'est un poème que vous avez lu plusieurs fois, j'ai l'impression que vous pouvez y revenir plusieurs fois. Il y a certains poèmes comme ça qui nous donnent envie d'y revenir.
Oui, mais vous savez, je suis éditrice de poésie et bon, je découvre actuellement des textes de poésie de grande qualité. Donc celui que je viens de lire, je l'apprécie tout particulièrement, mais je serai capable de vous en lire d'autres. La poésie, c'est vraiment quelque chose qui nous emporte, qui nous donne un dynamisme. Enfin, c'est peut-être ça que je préciserai comme définition de la poésie. Je parlais ce matin d'une énergie aussi que nous donne la poésie, un dynamisme. Un critère, je crois, pour apprécier la poésie, pour si c'est vraiment de la bonne poésie, une poésie qui soit forte, c'est de vérifier si elle nous fait avancer, justement, si elle nous donne un élan. Donc celui que je viens de lire est particulièrement caractéristique à cet égard, mais il y en a plein d'autres.
Il était très en mouvement, effectivement. Et donc, ce qui me venait aussi à l'esprit en vous écoutant dans votre parcours, c'est que vous êtes allé donc de l'écriture et aussi vers l'édition. Donc ça s'est aussi imposé, le fait de ne pas rester toute seule dans l'écriture, mais de rencontrer d'autres personnes qui écrivent.
Eh bien, moi je me suis engagée dans l'Église protestante unie de France il y a une vingtaine d'années. Bon, il y a 6 ans, je me suis retrouvée à la retraite du point de vue de mon activité professionnelle et j'ai eu envie de faire quelque chose à la fois qui pouvait correspondre en profondeur à mes goûts personnels, mais aussi quelque chose qui pouvait être utile, je l'espérais, pour cette Église. Je pense qu'une église ne peut véritablement vivre que si elle produit et diffuse une culture pour se faire connaître à l'extérieur. Il faut des spécialistes quand même pour diffuser une culture littéraire. Je pensais que ma formation pouvait me qualifier pour ça. Hein. Et donc, en étant à la retraite, j'avais la possibilité de ne pas avoir besoin de rentabilité pour éditer les textes qui m'étaient proposés, ce qui n'est pas possible pour des éditeurs commerciaux. J'ai eu envie de mettre au jour des textes qui apportent une culture littéraire à cette église. Les textes existent, les poètes existent, ce sont des poètes de qualité. Ils ont des textes dans leur tiroir, il faut les faire vivre. Voilà, donc c'est ce que j'ai cherché. Alors après, vous disiez avoir des contacts avec d'autres poètes. Effectivement, il y a des poètes qui m'ont apporté leurs textes. C'est vraiment un beau cadeau parce qu'ils m'ont fait confiance aussi. On n'apporte pas des textes comme ça facilement à quelqu'un au risque d'être rejeté, etc. J'ai publié les textes de certains auteurs et effectivement après on noue des contacts comme ça et c'est vrai qu'on constitue un groupe de poètes, on s'entend bien et on essaie de mener des actions constructives dans l'église ensemble de ce point de vue là et c'est très enrichissant.
Et vous habitez Marseille et donc dans le sud de la France, vous avez déjà avec d'autres donc créé des événements autour de la poésie, de l'écriture. Il y en a eu à Marseille, je crois. Il va y en avoir à Montpellier. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment ça se C'est un festival, on se rencontre, on lit ses productions.
Oui, il y a des événements de diverses natures que nous pouvons proposer. Comme je vous ai dit, cette maison d'édition, elle n'appartient pas au circuit vraiment commercial, donc elle pratique sa diffusion en produisant ce type d'événement dans les paroisses qui veulent nous accueillir. Donc c'est vrai que je suis installée dans le sud, donc j'ai été accueillie par beaucoup de paroisses dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans les Alpes-Maritimes. Actuellement, nos activités se déportent un peu vers le Gard, les Cévennes. Mais d'autres de nos poètes ont créé des événements dans d'autres régions. Michel Bloch, par exemple, a créé un festival une année à Brest. Un autre de nos auteurs, Julien Nathanaël Petit a monté aussi des festivals et monte des festivals régulièrement à Strasbourg. Donc vous voyez, notre rayonnement est vraiment national. Et les événements sont de nature différente selon la volonté des paroisses, selon leurs souhaits. C'est-à-dire qu'on peut intervenir très ponctuellement pour une conférence ou organiser, par exemple pour le Printemps des Poètes qui se déroule partout en France, une journée culturelle dans une paroisse. Ou bien, alors oui, c'est vrai, nous avons aussi monté des festivals, c'est-à-dire en fait un événement poétique qui dure 3 ou 4 jours. Et là, nous avons des éléments variés, c'est-à-dire que nous pouvons organiser des ateliers de poésie. Tout le monde peut venir s'entraîner. Il y a des conférences, il y a des soirées poésie et musique. Enfin, nous varions vraiment beaucoup les moyens d'expression de la poésie.
Donc je crois qu'il va y avoir donc un événement à Montpellier, ce sera aussi donc un festival, un peu comme il y a eu aussi à Marseille.
Alors c'est en préparation.
Qui est en préparation.
Oui, voilà, pour l'instant nous n'avons pas exactement tous les détails de l'organisation. Nous espérons qu'il pourra se dérouler, je crois que ce sera en mars, oui, pendant le Printemps des Poètes. Mais il faudra que vous me réinvitiez à ce moment-là pour que je vous parle en détail du programme.
Voilà, donc
pour l'instant, c'est une promesse. On
autour de cet événement aussi, hein, le Printemps des Poètes, c'est une belle initiative, autre venue autrement, mais c'est bien de s'y glisser aussi en tant que poète de la foi.
Oui, mais je crois qu'il faut que les poètes de la foi se mettent au diapason de la culture nationale.
Oui.
Ils y participent.
Oui. Eh bien, Jacqueline Assael, moi, je vous remercie beaucoup d'être passé beaucoup de temps avec nous aujourd'hui et dans notre émission. Et nous allons peut-être... Est-ce qu'il y a une toute petite chose que vous voulez lire encore en dernier ?
Ben, ça sera peut-être alors le début de mon propre recueil « Frères de silence ». Si vous avez en face de vous quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais blessé par la vie, enfermé dans une espèce de silence, il ne peut pas partager avec vous, eh bien, ce type de poème dit cette tentative, malgré tout, de le rejoindre dans son silence. Elle ne voulait pas refermer le silence d'un claquement d'oubli asséchant la margelle des jours. Elle ne voulait pas la mort, puisqu'en lui il se fondait. Longtemps, elle a invité son silence. Il irriguait, il humectait le pontage des nuits.
Merci beaucoup, Jacqueline Assael, donc poète de la parole, poète de la foi, d'être venue avec moi aujourd'hui. Et puis, nous vous souhaitons de belles rencontres.
Voilà. Merci beaucoup de votre accueil et de votre écoute. Les poètes ne peuvent pas s'exprimer si personne ne les écoute. Donc, merci beaucoup de nous avoir apporté votre écoute toute la journée. Thank you.